Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui à la rencontre des jeunes agriculteurs, ceux et celles qui choisissent de consacrer leur vie à élever des bêtes ou produire de la nourriture. Une vie au grand air et en pleine nature, mais aussi une vie de contraintes et parfois de sacrifices. Crise du porc, crise du lait, remise en cause du modèle productiviste, l'agriculture est en plein doute. Alors quelles sont les motivations et les rêves des jeunes qui s'installent aujourd'hui? Pourquoi les jeunes choisissent encore l'agriculture? Culture, un grand reportage signé Grégory Lesca.
Bonjour. On est dans la salle de traite, donc c'est une salle de traite composée d'une fosse centrale avec deux caisses sur les côtés, où ça peut accueillir 14 vaches, donc 7 de chaque côté.
Donc le lait là, il part dans les tuyaux et ensuite il arrive où?
Il arrive dans une centre de réception qui est avec une pompe qui est envoyée dans le tank en fait.
Un gros réservoir là qui contient combien?
Le tank qui contient 3300 litres. Et il y a un petit tank juste à côté pour pouvoir faire le tampon qui fait 1000 litres.
7h15, Marc-Antoine et ses parents sont au travail depuis une bonne heure déjà. Chaque jour, matin et soir, ils traient les 73 vaches Primolstein de cet élevage. Nous sommes ici à Mondevert, près de Rennes, en Bretagne. À 26 ans, Marc-Antoine Blandeau est la quatrième génération d'éleveurs de sa famille. Il y a un an, il s'est installé en GAEC, groupe d'exploitation en commun, avec ses parents comme associés.
J'ai toujours été dans ce milieu-là. Forcément, mes parents sont agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc j'ai suivi le cap tranquillement, sans vraiment chercher à voir ailleurs, puisque ça me plaisait énormément. Donc du coup, je suis parti dans cette voie-là, sans regret pour le moment.
Pas de regret, mais de sérieuses inquiétudes. Pour Michel, le père de Marc-Antoine, très partagé sur le fait que son fils prenne sa suite.
C'est une crainte et une fierté que un fils reprend l'exploitation, mais c'est une crainte pour l'avenir, parce que on est au bas.
Au plus bas, Michel Blandeau peut à peine terminer sa phrase. Il faut dire que l'année 2016 a été la pire de sa carrière. La fin des quotas laitiers, une surproduction européenne, des prix mondiaux qui s'effondrent. La crise est sans précédent et le sentiment d'impuissance immense. Marc-Antoine.
On a une référence laitière de 528 ml de lait avec l'entreprise Lactalis. C'est un prix de litre de lait que Lactalis fixe en fonction des cotations, en fonction du marché qu'en gros. Au jour d'aujourd'hui, il sera payé 315 euros la tonne, donc 31 centimes le litre.
C'est suffisant, ça?
Non. Le prix de base est à 31 centimes. C'est insuffisant.
Et vous, ça vous coûte combien de produire un litre? Alors, vous avez le petit papier.
J'ai fait un petit papier pour voir ça. On a un prix de vente du lait à 345 euros en 2012 jusqu'à 308 en 2016. Donc, on voit une évolution qui baisse de plus en plus, quoi. On a un coût alimentaire donc de 91 euros par millilitre. Donc on fait la différence et puis voilà, on a notre marge.
Donc en gros, vous avez 200
euros, sur marge de 200 euros par millilitre. L'année dernière, le prix du lait a été payé en 2016. Prix de base, 296 euros par millilitre, donc 29 centimes. On est rendu à 31 maintenant. On espère que ça continuera à monter parce que on a fait un déficit de 45 000 euros en un an. C'est là, je me suis installé au début de la crise. On avait une trésorerie qui permettait de suivre facilement et là ça dégringole de plus en plus, donc ça continue comme ça. Je me suis pas installé pour faire tomber la structure de mes parents, quoi. C'est pas de notre faute si la conjoncture est comme ça.
Cette situation, Marc-Antoine et ses parents ne veulent pas la subir. Ils ont donc décidé de se dégager un salaire en dépit des difficultés. 3500 euros pour les trois. Mais avec cela, Marc-Antoine doit rembourser ses investissements, 150 000 euros au total. Une somme pourtant faible comparée à certaines installations en élevage qui peuvent aller jusqu'à 800 000 euros. Pierre-Marie Vouillot, vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs.
C'est vrai qu'une installation d'agriculture, c'est des capitaux assez lourds au départ. C'est surtout des capitaux qui sont pas rentables à court terme. C'est un peu ce qu'on a comme une industrie lourde. Et c'est vrai que ça peut freiner les installations. Ce qu'on peut constater aussi, c'est surtout à force de partir sur de l'agrandissement, mais on a des structures qui sont de plus en plus importantes et qui vont être à l'avenir extrêmement difficiles à transmettre.
Entre 2000 et 2010, le nombre d'élevages bovins est passé de 70 000 à 48 000 en France et la baisse devrait s'accentuer avec la crise. Autour de Marc-Antoine, plusieurs voisins ont déjà mis la clé sous la porte. Lui veut y croire, même si les temps sont durs.
Déjà, on n'est pas préparé à ça, déjà. Nous, on a beau faire n'importe quelle formation, on n'est pas préparé à prendre une claque, si je peux dire, parce que c'est une grosse claque qu'on prend, là. Si on continue dans les chiffres, moi, j'arrête tout de suite. C'est pas les chiffres qui me motivent, c'est le métier en tant que tel, parce qu'il y a quand même une fierté de travailler dans le milieu qu'on travaille. On est tous les jours dehors, on élève des bêtes parce qu'on les aime, quoi.
Marc-Antoine s'accroche donc, épaulé par sa compagne qui travaille à l'extérieur et ses parents. Ils travailleront ensemble une quinzaine d'années, le temps de transmettre la ferme et l'expérience. En 2015, 15 100 agriculteurs se sont installés, dont 9 200 jeunes de moins de 40 ans. Pierre-Marie Vouillot, vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs.
On a une majorité d'hommes, mais on a de plus en plus de femmes, hein, je crois, de tête. On est à un bon tiers d'installation féminine aujourd'hui. Après, l'âge moyen, c'est pareil, hein, il est très divers. On est sur une moyenne d'âge d'environ 27 ans. Mais avec les plus jeunes qui s'installent à 18 ans et les plus âgés ont 40 ans, l'âge limite. Mmh. Au niveau de l'origine des candidats, on a aussi une grande diversité. On a des fils d'agriculteurs, des neveux d'agriculteurs. Mais aujourd'hui, on a à peu près un tiers des candidats qui s'installent qui n'ont pas du tout d'origine agricole.
Si le nombre des installés a légèrement augmenté par rapport aux années précédentes, il ne suffit plus à combler les départs en retraite de la génération des baby-boomers. En 2012, seuls 4 agriculteurs sur 10 en fin de carrière connaissaient celui ou celle qui allait leur succéder. La profession est donc face à un défi de taille, transmettre et maintenir les exploitations. Cette question, Anne-Hélène Rioux y est confrontée chaque jour un peu plus. Elle est animatrice à l'association La Marmite qui vise à redynamiser les territoires ruraux dans le pays de Questembert, près de Vannes en Bretagne.
Aujourd'hui, moi je reçois de plus en plus d'appels de cédants qui ont des grosses fermes, qui veulent des repreneurs et en fait qui vont même me spécifier au téléphone et qu'importe le projet qu'ils développent, ils peuvent être à plusieurs, ils peuvent faire du bio. Voilà, moi je cherche un repreneur surtout. On sait qu'on est dans une période où les départs à la retraite sont très importants. Donc du coup, c'est à se dire, il faut que quelqu'un reprenne mes terres parce que quelque part pour eux c'est aussi un revenu, quoi.
La transmission, c'est le grand chantier des chambres d'agriculture. C'était d'ailleurs le thème de l'année 2016.
Une transmission d'une exploitation, ça se fait pas du jour au lendemain.
Raymond Vial, éleveur bovin, responsable du dossier installation-transmission à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ça veut dire qu'il faut commencer à mettre bien au courant l'agriculteur 5 ans minimum avant qu'il arrête, qu'on s'aperçoit que c'est dans les dernières années que l'agriculteur fait des choix. Et à partir de ce moment-là, il peut délaisser un certain nombre d'outils qu'il a sur son exploitation qui font que derrière, l'exploitation ne sera pas reprenable.
Elle, c'est Blanche-Neige, 350 kilos. Elle a fait 3 portées déjà dans l'élevage.
Blanche-Neige, c'est l'une des 6 truies de Julien Bayouon. Cet éleveur de porcs et de vaches de 36 ans s'est installé à son compte début 2016 à La Haylaye, dans le Morbihan.
Et comme tu vois, le bâtiment est grand, ils ont de la place, ils ont plein de paille, ça court partout. C'est des cochons sportifs un peu, quoi.
Oui.
Mais bien, en pleine forme. Faut savoir que avant d'être ici, j'étais en conventionnel à travailler. Pendant 15 ans, j'étais salarié en élevage de porcs conventionnel. Et ici, en bio, les cochons, ils ont plus de place, ils ont de la paille, ils ont plein de choses. La différence entre le conventionnel et le bio en porc, c'est le stress animal. C'est chez nous, il n'y en a pas.
Si Julien a pu s'installer, c'est grâce à Jean-Louis Lenormand. À l'approche de la retraite, cet éleveur de vaches n'avait pas de repreneur. Il y a un peu plus d'un an, il a rencontré Julien, sensible comme lui à une agriculture biologique.
J'ai 4 enfants, j'avais un de mes enfants qui a fait des études agricoles. Il n'y avait personne qui était intéressé plus que ça dans l'instant. Donc voilà, j'avais quelques années un peu avant l'âge théorique de la retraite.
Pendant 6 mois, Jean-Louis a formé Julien, puis il lui a vendu son cheptel et loué bâtiments et matériel. Mais il continue de vivre sur place.
Je crois qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je demande conseil à Jean-Louis quand même sur telle chose ou telle autre. Et je suis bien content de le trouver par là encore quand je ne sais pas trop comment m'y prendre avec les bêtes. Si j'ai besoin d'un coup de main pour une corvée, il est là. Si j'ai besoin d'un conseil, il est là aussi. C'est quand même un atout pour moi de le trouver encore par là quand j'ai besoin.
Aujourd'hui, Julien vend sa charcuterie et sa viande en filière courte dans des magasins de producteurs et directement à la ferme. Un choix qui devrait lui garantir à terme un salaire de 2 000 euros net par mois. Et quand on lui demande ce qui a changé par rapport à sa vie de salarié, Julien répond.
Ce qui était difficile, c'était pas au niveau de la ferme, c'était plus au niveau personnel. C'est de se dire, bah voilà, j'avais déjà une femme et deux enfants, et de leur dire du jour au lendemain, bah écoutez, les 40 heures de travail par semaine, c'est terminé, maintenant je vais bosser tout le temps, le samedi, le dimanche, vous me verrez moins. C'était plus ça, d'impliquer la famille là-dedans, de leur faire comprendre du jour au lendemain que voilà, tout va changer. Mais avec du recul, au bout d'un an, c'est pas si mal, parce que avant, étant salarié, il y avait quand même les contraintes d'horaire et tout ça. Et j'ai l'impression, avec un peu de recul, que je passe plus de temps avec ma famille maintenant qu'avant, même si je travaille beaucoup plus qu'avant. On arrive quand même à se dégager du temps quand on a besoin pour la femme et pour les enfants.
D'ici 3 ans, Julien espère agrandir son exploitation pour pouvoir faire venir travailler son épouse à ses côtés. Là. Un jeune qui se lance aujourd'hui peut prétendre à plusieurs aides de l'État et de l'Europe. La principale, c'est la DJA, la dotation jeune agriculteur. Cette aide en trésorerie est versée en 2 temps, 80% au moment de l'installation, les 20% restants au bout de 5 ans si le jeune est parvenu à se dégager un revenu minimum. Le montant de base tourne autour de 10 à 15 000 euros et peut s'élever jusqu'à 50 000 euros en fonction de la zone où s'installe l'agriculteur, montagne ou plaine, en fonction aussi de la nature de l'exploitation. Une installation d'agriculture, c'est dès le départ une énorme pression et beaucoup de démarches. Et les jeunes n'ont pas toujours les épaules pour faire face. C'est pourquoi l'association Les Champs des Possibles en Ile-de-France développe un système de couveuses sur le modèle des incubateurs d'entreprises. Laurent Marbeau est maraîcher depuis 16 ans dans l'Essonne et administrateur des Champs des Possibles.
On peut faire semblant de s'installer, apprendre le métier au jour le jour, sans griller ses droits aux aides. Et quand on sort de Champs des Possibles, on a tous les droits aux aides, quoi. Mais sauf que quand on sort de Champs des Possibles, on connaît son métier. Déjà, on est vraiment sûr, c'est un test d'activité. On peut aussi, en sortant de Champs des Possibles, dire non, mais en fait, j'ai fait 2 ans de maraîchage, j'ai compris, c'est pas pour moi, l'hiver il fait trop froid, l'été il fait trop chaud, ou alors c'est compliqué avec ma famille, ou alors je trouve pas de terre, ou alors ben, voilà, il y a plein de raisons de reculer. Mais en tout cas, si on y va en sortant de couveuse, on sait où on va, quoi. On sait, et on est plus crédible aussi vis-à-vis des banques pour demander un emprunt. On connaît déjà le milieu agricole, alors on essaye d'avoir des gens en couveuse dans le coin où ils vont s'installer, comme ça ils connaissent déjà un peu les autres paysans, il y a déjà des solidarités qui se créent, donc voilà, ça facilite, ça fluidifie un peu le passage de l'installation.
Les Champs des Possibles s'appuient sur le réseau AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui met en relation producteurs bio et consommateurs, un réseau qui permet aux agriculteurs de se garantir un salaire. Bon, alors là vous venez de charger le camion, c'est pourquoi ce camion ?
C'est pour la distribution qu'on va faire à la MAP cet après-midi, et enfin ce soir même. Donc c'est la MAP de Vanves qui est à peut-être 20-25 minutes de route.
Il y a quoi dans ces paniers ?
Des pommes de terre, des carottes, des courges.
Lui, c'est Adrien Doussot. Depuis le 1er janvier, ce jeune homme de 25 ans travaille avec Laurent Marbeau en tant qu'entrepreneur à l'essai en couveuse d'activité. Pendant un an, il va développer sa propre production sur des terres que Laurent lui prête. Chaque semaine, il livre donc une 30aine de paniers de légumes bio aux clients de l'AMAP, le tout pour 1000 euros par mois, aide comprise. Et si aujourd'hui Adrien sait qu'il veut être maraîcher, cela n'a pas toujours été le cas.
Moi j'ai commencé par une lycée générale, ensuite j'ai décidé de faire de la cuisine, et déjà c'était un changement professionnel. Et donc ça, j'ai eu aucun problème à dire du jour au lendemain, bah, l'année prochaine je fais un CAP de cuisine. Par contre là, c'était 5 ans et demi après, où je rechange encore. Et là, pour moi, ça a amené une image d'instabilité, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui change tout le temps. Et alors là, ça a été un gros blocage. Je ne leur en ai pas parlé, même si c'était clair pour moi, c'était ce que j'allais faire. Mais je n'arrivais pas à le dire. Et je suis tombé malade, assez violemment. J'ai été cloué au lit. J'ai perdu 8 kilos en une semaine. Ensuite, j'ai fini à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là où les choses ont réussi à sortir.
Sa vocation, ce fils de citadin qui a grandi à Paris, l'a découverte via la cuisine. Pour Adrien, cette année en couveuse est aussi un test en vue d'une éventuelle association sur le long terme avec Laurent. Et quand on lui demande s'il appréhende cette vie à la campagne, il répond.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je désire m'installer en collectif. C'est l'une des raisons pour lesquelles je désire être en AMAP. C'est parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'agriculteur, la vie sociale peut s'atténuer au fur et à mesure des années, jusqu'à devenir un problème. Donc, être en collectif, ça fait du lien, même si on n'est pas toujours d'accord. Et le lien avec une AMAP, ben, c'est 150 familles, quelque chose comme ça, qui, eux, ont tous une vie super différente.
Comme Adrien et Laurent, de plus en plus d'agriculteurs se mettent au bio. Au premier semestre 2016, la France comptait 32 300 producteurs bio, soit une hausse de 12% par rapport à l'année 2015. Et la demande est en progression constante.
Ça, c'est les fruits rouges, donc... Oh, je ne sais plus exactement comment c'est dispatché sur le truc, mais là, c'est du cassis. Ça sent. Ça, c'est du cassis.
Rémi Saint-Gier aussi s'est installé en maraîchage bio l'an dernier, à Lumigny, à 50 km au sud-est de Paris. Des terres sableuses cultivées par sa famille depuis 3 générations. Pourtant, Rémi, bientôt 32 ans, ne se destinait pas à reprendre le flambeau. Il a d'abord été paysagiste en Bretagne avant d'avoir un déclic.
Donc après notre BTS avec ma compagne Claire, on est parti au Brésil avec dans l'objectif de visiter des communautés dans le nord-est du Brésil. Et là, on a rencontré des communautés agricoles qui vivaient vraiment de leur agriculture, et c'est là où je me suis réellement rendu compte de l'importance de la terre cultivée en opposition à la terre exploitée, en fait.
À peu près à la même époque, le propriétaire qui loue les terres à Anne et Pascal Saint-Gier, les parents de Rémi, leur annonce qu'il veut vendre l'une de leurs parcelles, 38 hectares sur les 130 que compte l'exploitation. La famille se tourne alors vers l'association Terre de Liens qui milite pour le maintien d'une agriculture paysanne par l'intermédiaire de sa foncière, une structure qui permet aux particuliers de placer leur argent de manière solidaire. Elle achète des terres pour les louer à des agriculteurs à condition qu'ils cultivent selon des critères bio. Valérie Rosenwald a suivi le dossier pour Terre de Liens à l'époque.
Nous, on achète des terrains quand il y a une personne dessus et un projet. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des terrains dans le vide pour après trouver quelqu'un. Et donc là, on avait Anne et Pascal qui étaient déjà motivés pour penser à leur succession. Donc c'était intéressant pour ça. C'était des terres, une surface suffisante pour envisager une installation agricole, quelque chose de pérenne et qui marche. Sachant qu'on pouvait faire une installation agricole en bio en Île-de-France, dans une région un peu difficile de ce point de vue-là.
Le pari est audacieux, car les parents de Rémi ne sont pas convaincus par l'agriculture biologique. Mais leur fils décide de relever le défi. Pour l'heure, il débute sur 38 hectares avant de reprendre la totalité des terres de ses parents et le magasin de la ferme. Et il va même plus loin. Fort de sa formation de paysagiste, il se lance dans l'agroforesterie et plante 1700 arbres et 9000 arbustes sur sa parcelle, aux côtés des plants de colza, luzerne, blé ou encore chanvre.
Un arbre au milieu des cultures, on travaille sur la troisième dimension de l'espace. Donc les cultures, elles sont au sol. C'est des plantes qui durent moins d'un an. Et donc l'arbre et les arbustes, ils ont l'intérêt d'être pérennes. Ils sont des êtres vivants qui concentrent et qui apportent un équilibre énorme dans la parcelle de culture. C'est des sanctuaires de biodiversité qui vont réensemencer mes zones de culture, qui sont des zones juvéniles d'un point de vue biodiversité.
L'agroforesterie, c'est aussi ça qui a convaincu Claire, la compagne de Rémi, de le suivre dans cette nouvelle aventure. Microbiologiste de formation, elle travaille à Paris, mais voit dans cette expérience un vaste champ d'expérimentation.
Je pense que c'est vraiment un pari pour l'avenir. Risquer, de toute façon, si on n'est pas une génération qui prend des risques, on n'avancera pas. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on engage des initiatives. Et moi, j'ai plus l'impression d'innover, en fait, que de me risquer. Je me dis, j'innove, et puis ce qu'on aura trouvé, on le trouvera. Et au pire, on s'orientera, on trouvera toujours un moyen de s'orienter sur quelque chose de plus rentable, de plus productif. On ne travaille pas tout seul, donc on est bien entouré.
En ce samedi où les températures flirtent avec le zéro, une quinzaine de bénévoles sont dans les champs de Rémi. C'est le cas de Rémi.
Si on veut un modèle d'agriculture paysan et citoyen, ça veut dire qu'il faut aider les gens qui se lancent et qui ont le courage de se lancer, parce que c'est vraiment pas facile.
Ce genre de week-end, Rémi compte en organiser régulièrement, à l'heure où les consommateurs sont de plus en plus déconnectés de ceux qui produisent leur nourriture. Ces rencontres sont pour lui une manière de replacer l'agriculteur au centre de la production et de cultiver un nouveau lien avec les citoyens.
On ouvre notre ferme à des gens qui n'ont pas l'habitude de mettre des pieds dans les champs, et nous, on n'a pas l'habitude de voir ces personnes-là dans les champs. Donc c'est ça l'ouverture, communiquer sur notre manière de travailler qui est... C'est un sacré carburant, ça motive quoi. Ça motive pour en faire des choses, on a des nouvelles idées qui apparaissent.
Pourquoi les jeunes choisissent encore l'agriculture? Un grand reportage de Grégory Lesca, réalisation Lorenzo Lacchesi-Danet et Baptiste Collion.